Putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canu info.
Ah,
ah mais je sais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quel heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de la crête en 2.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Wow.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière, c'est clair la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut débarquer ton permis, ton vol volémique et ton bullshit. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec toi la tête. Prends ta chute dans une estafette. C'est quoi, c'est quoi,
c'est qu'un mille info.
La radio più ribelle.
Paniquez, paniquez tout.
Attends, paniquez pas.
Niquez tout.
Paniquez pas, niquez tout.
Canu info du vendredi.
Sur Radio Canu, vous entendez bien Nina Simone, mais c'est bien l'heure du Canu Info du vendredi, le 1er de 2025. Et comme le veut la tradition, c'est un Canu Info spécial Bonne Nouvelle.
Et oui, alors du coup, dans les bonnes nouvelles, on commencera par parler des jours fériés de 2025.
Bonne nouvelle, peut-être un poil plus sérieuse, Nicolas Sarkozy définitivement condamné à 3 ans de prison.
Et oui, mais on se réjouit pas que des condamnations dans le Canu Info du vendredi. On va pouvoir le rat de la loi anti-Airbnb qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale.
Et puis, toujours bonne nouvelle, coup d'arrêt pour la audio-surveillance algorithmique à Orléans.
Ensuite, une rubrique féminisme avec un petit medley international.
Et puis en écologie, on vous parlera de la non-existence d'une ferme usine à saumon dans les champs bretons.
Absolument, écologie toujours, 4 méga bassines ont été déclarées illégales l'année passée.
Alors là, je panique parce que je pense qu'on a aussi un bout du nucléaire que je ne vois pas.
Ah oui.
Parce que c'est la fin du nucléaire.
C'est la fin du nucléaire. Le nucléaire est obsolète.
Donc on vous parlera de la fin du nucléaire avant de vous parler des animaux.
Ah oui, dans les animaux, on parlera notamment du lynx ibérique.
Et puis aussi de bébés tortues Kawan qui sont nés à Saint-Cyprien.
Et oui, on en apprend du vocabulaire. Et enfin, des femelles requins en voie de disparition qui en fait ont refait des bébés toutes seules.
Et puis du côté de l'international, car oui, les bonnes nouvelles c'est partout. On vous parlera du VIH, un médicament préventif efficace avec 2 injections par an seulement, suscite l'enthousiasme.
Ensuite, on vous parlera de la Syrie et notamment avec la chute de la dictature d'Al-Assad.
Et puis on se rappellera quelques grèves gagnées aux États-Unis.
Et enfin, on vous parlera de l'abolition de la peine de mort au Zimbabwe. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle.
Avant de vous donner nos petits vœux pour 2025, bref, voilà un Canu Info plein de joie.
En attendant, bonne nouvelle ou pas, on cherche toujours ce que veut dire ACAB, ce tag qu'on voit un peu partout sur les rues de la ville. Si vous savez ce que veut dire ACAB ou ACAB, comme disent certains et certaines, appelez-nous au 04 78 39 18 15.
que c'est qu'une dictature. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
La bêtise n'y a pas de limite. Et autre petit adage, il n'y a pas de petit profit. Et oui, comme certaines et certains d'entre vous sont peut-être salariés en ce début de 2025, vous avez peut-être compté les jours fériés. Écoutez, dans cette rubrique Bonne Nouvelle, on avait envie de vous dire que pour 2025, en vrai, au max, il peut y avoir entre 7 et 10 jours fériés qui tombent les jours de semaine. Et en 2025, ce sera 10. Donc voilà, happy jour férié. Profitez bien des ponts pour faire la révolution.
Tout à fait, et on se donne immédiatement rendez-vous le 1er mai sur la place Saint-Honest, c'est un jeudi.
Et vous pourrez du coup vous en remettre, puisque subtilement vous aurez posé votre vendredi. Voilà, autre bonne nouvelle, Sarkozy condamné à 1 an de prison ferme. Alors certes, on sait, il ne passera pas une seule nuit derrière les barreaux, mais on est quand même très contente et content, puisque la Cour de cassation a validé la condamnation quand même de l'ex-président Nicolas Sarkozy à 1 an de prison ferme dans l'affaire Bismuth. Et il faut aussi quand même savoir que dans quelques jours s'ouvrira un nouveau procès pour l'ex-chef de l'État, celui des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle en 2007. Alors il faut quand même savoir que Sarkozy aura tenté tous les recours possibles, mais la Cour de cassation a confirmé définitivement sa condamnation à 3 ans de prison, dont un ferme, pour corruption et trafic d'influence. Alors évidemment, il ne sera pas sous les barreaux, il aura un bracelet électronique qu'il n'a pas encore, il restera dans ses résidences de luxe, blablabla. C'est évidemment un traitement qui contraste fortement avec les multiples peines de prison ferme, de prison avec sursis ou les lourdes amendes infligées aux manifestants, manifestantes, aux grévistes et en général aux classes populaires et ouvrières. Mais n'empêche qu'on est quand même bien content qu'ils soient reconnus coupables et c'est aussi une première pour un président de la République. Donc juste un petit contexte pour vous redire, en 2014, Nicolas Sarkozy avait utilisé son avocat Thierry Herzog pour obtenir des informations illégales sur les enquêtes judiciaires sur le financement de ses comptes de campagne de 2007 à 2012 auprès du magistrat Gilbert Azibert en échange d'un poste de conseiller d'État à Monaco pour ce dernier. Et surtout, cette nouvelle condamnation ne marque pas la fin des aventures judiciaires de Nicolas Sarkozy qu'on suivra avec attention en 2025. On se réjouit de ce qu'on peut, mais on se réjouit quand même. Et pareil, peu de lois nous ont fait plaisir en 2024. On vous a parlé de toutes ces lois qui pénalisaient de plus en plus les grévistes, les manifestants, les salariés, mais il y a parfois des lois qui vont un peu dans le bon sens. C'est le cas de la loi du 19 novembre 2024 qui vise à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu une loi anti-Airbnb. Alors, elle a été proposée effectivement en première lecture à l'Assemblée nationale au début de l'année 2024. Elle a été définitivement adoptée en novembre 2024. Et du coup, elle limite la location des résidences principales à 90 jours par an et impose des obligations d'enregistrement. Elle impose aussi, par exemple, que ce qu'on loue par les plateformes d'Airbnb soit sous les mêmes dispositifs de DPE que les locations principales, parce qu'avant, on pouvait vraiment louer des passoires énergétiques. Et la peur qu'on avait, c'était que, comme on ne pouvait plus louer à des personnes, que ce soit leur résidence principale, des passoires énergétiques, paf, ça allait tout passer dans le parc immobilier Airbnb. Ça, ce sera pas possible. Et cette loi, elle donne aussi plus de pouvoir aux maires pour mettre en œuvre des quotas de meublés de tourisme. Donc les communes situées en zone tendue ou qui représentent plus de 20% de résidences secondaires pourront désigner dans leur PLU d'urbanisme des zones qui seront spécifiquement réservées à la construction de résidences principales. Alors, c'est pas encore la fin de Airbnb, mais pour une fois, c'est une loi qui va dans le bon sens.
Et puis on aurait aimé vous annoncer la fin de la surveillance algorithmique et de toutes ces conneries, mais malheureusement, même en cherchant bien, on n'a pas trouvé ça. Alors on se contentera malgré tout d'une décision du tribunal administratif d'Orléans qui a confirmé alors que l'audio-surveillance algorithmique, donc l'ASA, donc évidemment la vidéo-surveillance algorithmique mais avec des micros, qui avait été installée en parfaite illégalité par la mairie d'Orléans, est totalement illégal. Alors c'est le premier parce que du coup la surveillance sonore c'est moins développé, que, en tout cas c'est moins bling bling, du coup il y a moins de lobbying, du coup il y a moins de, d'élus territoriaux qui trouvent que c'est vraiment super de mettre ça dans leur commune ou autre, mais en tout cas c'est quand même le premier jugement qui vient dire c'est parfaitement interdit. D'autant plus que le juge a été, enfin le tribunal a été assez sévère en expliquant, du coup, puisque la commune expliquait que, pardon, qu'il n'y avait pas de traitement des données personnelles, alors que les vidéos, les micros couplés aux caméras collectent et utilisent des informations se rapportant à des personnes susceptibles, au moyen des caméras auxquelles ils sont couplés, d'être identifiées par l'opérateur. Autrement dit, il y avait des caméras et des micros à côté. Enfin, des micros, c'est pas exactement ce que défendait la ville d'Orléans. Vous en avez déjà parlé, puisque c'est quand même un peu marrant. Donc c'est la boîte qui leur a vendu ce truc qui est censé être un produit conforme RGPD, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, n'appelait pas du tout ça des micros, mais bien des capteurs de vibration de l'air. C'est extraordinaire d'avoir une telle équipe d'ingénieurs pour, a priori, ne pas savoir en toute bonne foi que le son n'est autre chose qu'une vibration de l'air. Voilà, même la défense du maire d'Orléans qui disait que ça permettait de sauver des vies, sur quoi le tribunal lui a rappelé que bah, déjà c'est pas vrai, ça a été assez largement montré, que ça ne sert à rien ces trucs là et qu'en plus quand bien même ça sauverait des vies, la question de la proportionnalité, parce que surveiller tout le monde tout le temps, c'est toujours pas censé être légal. Bref, c'est une petite victoire, mais surtout ça montre que quand même, si c'est très très dur de lutter au niveau national, au niveau local il y a souvent des initiatives qui se montent et qui viennent surveiller ce que font les mairies, les départements, les régions, et qui arrivent à lutter, et du coup on vous encourage à continuer tout ça.
Absolument. Et nous, on continue sur la radio car on sait qu'un micro, ça fait vibrer de l'air.
Invisible, disponible, libre et irréductible.
Canu, info.
Invisible, disponible, libre et irréductible.
Attendu, féministe.
Sommes fortes, et sommes fières, et féministes et solidaires et en colère.
Canu, info du vendredi.
Alors que dire, la lutte féministe n'est évidemment pas finie. Je pense que ce qui est le plus relayé par les médias, c'est la constitutionnalisation en France de la liberté d'avorter qui a été proposée début d'année 2024 et entérinée le 8 mars. C'est à la fois bien, à la fois vraiment pas suffisant. Et du coup, on avait envie de faire un petit tour international des avancées sur les luttes féministes. Par exemple, en Croatie, en avril, le féminicide a été considéré comme un crime spécifique après l'adoption par le Parlement d'un amendement au code pénal prévoyant des peines allant de 10 à 40 ans d'emprisonnement. Cela fait en fait que la Croatie est l'un des seuls pays de l'Union européenne à disposer de peines spécifiques pour les meurtres de femmes en raison de leur genre. Le Parlement a aussi adopté en Croatie un amendement à la loi sur la protection contre les violences conjugales qui fait passer la peine de prison pour viol de 3 à 8 ans, en plus d'autres mesures contre les violences sexistes, même si on sait que la réponse pénale n'est pas la réponse forcément toujours qui résoudra tous les problèmes du patriarcat. Il n'empêche que reconnaître le féminicide dans le code pénal, c'est, on peut considérer ça comme une avancée. En Afghanistan, en octobre, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a jugé que la nationalité et le genre constituaient des motifs suffisants pour permettre l'asile aux femmes afghanes, et ça aussi c'est une avancée. Cette décision fait suite au refus des autorités autrichiennes d'accorder le statut de réfugié à deux femmes afghanes qui avaient demandé l'asile en 2015 et en 2020. Et donc de plus en plus, c'est possible de demander l'asile au motif de son genre et de sa nationalité, et ça aussi, malheureusement, dans un contexte totalitaire et répressif, on peut considérer ça comme une avancée. On fait ce qu'on peut, hein, pour les avancées. En France, quand même, on peut revenir sur le procès de Gisèle Pelicot, et notamment sur son témoignage, puisque, alors on vous en a beaucoup parlé de ce procès de Gisèle Pelicot, dont le verdict a été rendu il y a quelques temps, mais elle a pu en tout cas faire entendre, en tout cas c'est ce qu'elle voulait, la voix de tous et toutes les femmes qui sont victimes de viols, qui se disent « Madame Pelicot l'a fait, je peux le faire », je ne sais pas si ça fera ça pour de vrai, mais il n'empêche que ça a été une parole qui a pu être entendue. Elle-même a déclaré le 23 octobre « On me dit que j'ai du courage, ce n'est pas du courage, c'est de la volonté, de la détermination pour faire avancer la société. » Et on peut au moins lui reconnaître ça dans sa démarche et du coup lui redonner la parole. Du coup, pour information, du coup, les verdicts ont été donnés. 17 personnes font appel. Dominique Pilicot, lui, ne fait pas appel. En tout cas, ce que ça a permis, la médiatisation de ce procès, c'est de se dire que le profil du violeur n'est pas celui du parking le soir très tard. Le violeur peut être aussi dans la famille, chez les amis. Et ça, dans un contexte très spécifique, c'est une avancée. Au Mexique, le 20 novembre, l'État de Zacatecas a décriminalisé l'avortement, devenant ainsi le 17e État mexicain à le faire. On vous les cite un par un, ces États mexicains, puisqu'au Mexique, ça fonctionne État par État et pas au niveau du pays. Et depuis quelques années, chaque État progressivement décriminalise l'avortement. La même semaine, le Congrès du Chiapas a voté la réforme de l'article 4 de sa constitution qui protégeait auparavant le droit à la vie dès le moment de la conception et a ensuite adopté un projet de loi décriminalisant l'avortement aussi. Et le 25 novembre, c'est finalement le Congrès de l'État de Mexico qui a également décriminalisé l'avortement. Ce qui fait qu'au Mexique, l'avortement est désormais dépénalisé dans 19 des 32 États, dont la majorité a modifié leur législation auprès de la Cour suprême du pays. Voilà, et enfin, peut-être la meilleure bonne nouvelle de cette petite rubrique, c'est en Belgique, on vous en avait déjà parlé, puisque depuis le 1er décembre, les travailleuses du sexe en Belgique peuvent signer des contrats de travail leur permettant d'accéder à l'assurance maladie, à la retraite et aux congés payés de maternité ou de maladie. Il s'agit de la première loi de ce type au monde qui accorde aux travailleuses du sexe les mêmes droits et avantages sociaux qu'aux autres travailleuses. Elle a donc été adoptée par le Parlement belge en mai avec 93 voix pour, 33 abstentions et aucune voix contre. Le texte leur permet de refuser certains actes sexuels ou clients-clientes sans risque de licenciement. Il leur assure aussi le droit de ne pas être employés par des personnes avec des mentions de délits graves dans leur casier judiciaire. Bon, pourquoi ? En 2022, la Belgique est devenue le premier pays d'Europe à donc décriminaliser le travail du sexe et le deuxième au monde après la Nouvelle-Zélande. Voilà.
On continue tout de suite.
À l'évidence, ce matin, Thomas est en retard. Pourtant, en consommant du café et des produits bio et équitables, il est plutôt en avance.
Ta gueule !
Yeah. Avec le jus multi-pesticide de Leclerc, faites aimer les pesticides à vos enfants.
On va vous en citer quelques-unes, mais pour le coup, du côté de l'écologie, il y a vraiment plusieurs victoires. Et ces victoires, souvent, c'est le fait qu'un projet nuisible ne se fasse pas ou qu'un projet délétère s'arrête. Pour vous en citer un, on peut vous citer la ferme-usine à saumons dans des champs bretons qui ne se fera pas. Ils promettaient saumons et merveilles. À Plouzy, 2000 habitants dans les Côtes-d'Armor, les habitants-habitantes ont donc lutté contre l'implantation d'une méga ferme-usine à saumon dans une zone industrielle, donc jusqu'à l'abandon du projet par l'entreprise. Quand la lutte, ça fonctionne. Il faut quand même se rendre compte que ce projet était absurde. Ça consistait à faire un élevage de saumon dans des champs, quand même. Donc, initié en 2016 par...
Dans les vaches sous-marines.
C'est ça. Donc, c'était l'entreprise norvégienne Smart Salmon qui avait pour projet d'implanter une ferme-usine dans la zone industrielle donc de Plouzy pour y produire quelques, quand même, 8000 tonnes de saumon. Oui, parce que, du coup, quand on parle d'être vivant, on parle en tonnes, visiblement. Pardon. Donc, la construction nécessitait notamment la bétonisation de 10 hectares de terres agricoles pour une usine de 55 000 mètres carrés. Et là, tout le monde s'est mobilisé. Il y a eu un peu comme trois groupes d'acteurs. Il y avait d'un côté le collectif Duryugouez, qui a été créé en 2021. Encore d'un autre côté, des élus locaux locales. Et encore d'un autre côté, diverses associations et syndicats comme Eau et Rivière de Bretagne, la Conf Paysanne et la Fédération Régionale de la Conchiliculture. Et donc, qu'est-ce qu'ils dénonçaient les opposants? Alors, ils dénonçaient évidemment une consommation d'eau démesurée, quelques 600 m3 par jour, soit l'équivalent des besoins quotidiens de 4000 personnes, prélevées sur le réseau de l'agglomération, hein, bien sûr. De quoi générer, et du coup, inquiétude et incompréhension chez les habitants-habitantes, évidemment. Mais du coup, ça a permis aussi que tout le monde se mobilise, enfin voilà, des élus, et je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment est-ce qu'on gagne une mobilisation. Là, très clairement, elle a été gagnée parce que la commune de Plouzy s'est élevée contre ce projet de ferme usine très rapidement. Donc en 2021, l'agglomération de Guingamp-Paimpol avait acté la vente des terres, mais le conseil municipal de Plouzy s'est officiellement positionné contre le projet en 2023. Début novembre, la préfecture des Côtes d'Armor a confié au Télégramme, son journal local, que l'entreprise avait retiré son dossier de demande d'autorisation environnementale le 31 octobre, entérinant l'abandon du projet, même si rien n'empêche Smart Salmon de déposer une nouvelle demande à l'avenir. On félicite quand même le collectif, notamment Drouio Gouez, pour cette victoire locale. Faut savoir quand même que Greenpeace a recensé quelque 3000 fermes-usines en activité encore en 2023. Comme quoi, la lutte peut continuer.
Bravo aux saumons qui ont évité une vie et une mort atroces. On va vous parler d'un autre animal, mais c'est pas encore tout à fait la rubrique animal, ça viendra après. Mais pour l'instant, on va discuter un peu de loutarde canepatière, pardon, c'est pas si facile à dire, qui est un petit oiseau de plaine agricole qui figure parmi les espèces les plus menacées en France. Alors c'est un joli petit oiseau qui a un long cou noir et blanc, un plumage tacheté beige et marron et un ventre blanc. Mais alors bon, au-delà du fait que c'est un oiseau et que c'est sympa et on n'a qu'à le laisser tranquille, pourquoi est-ce qu'on vous en parle? Eh bien parce que c'est grâce à lui qu'a été déclarée illégale mercredi 18 décembre la méga bassine de Sainte-Soline, tout comme trois autres tunes d'eau dont j'ai perdu le nom, mais si ça y est, celle de Saint-Sauvent, de Mougon et de Messé. Alors voilà, c'était quand même une bonne nouvelle dans ce monde où la lutte, on se rappellera que quand même, il y a eu 3000 keufs qui ont été déployés pour protéger cette bassine illégale. Ils étaient force du côté de la loi, ça paraît absolument évident qu'ils ont failli tuer des personnes et attaquer des blessés. En tout cas, grâce à ce petit animal, il y a au moins pour l'instant une illégalité qui est prononcée. Alors évidemment, les agriculteurs continuent de tirer de l'eau dedans, ceux qui avaient des contrats, parce que bon, finalement, on a construit une bassine géante illégale protégée par des keufs. Pourquoi s'arrêter de tirer dedans, même si elle est déclarée non conforme? Et par ailleurs, évidemment, il y aura des recours qui seront posés par les constructeurs de la bassine pour essayer de faire en sorte que ce pauvre petit oiseau ne soit plus là et qu'il puisse continuer de nous niquer tranquillement.
Oui, et heureusement, on ne pourra pas élever de saumon dans les bassines.
Non.
Ouf. Allez, on s'offre une petite pause musicale avec un morceau lyonnais sorti en 2024, c'est Grand Bazar fois Okis.
Ouais.
Ouais, c'est comme ça. Ok.
Mais mon gros, c'est que je progresse vite. Premier taf où je dîne au pilon du premier caf. À peu près petit, j'étais trop bête. Mais déjà chaud, j'avais pas trop fait gaffe. Même si des fois je choquais, je poquais tous ces kickers. La sauce est piquante comme le capot, ils sont lissés comme le speaker. Moi je suis hostile, toi t'as tricard, que sont dociles comme l'autre Smithers. Je crame pas de brigade Schmitt sur le pas de ma porte. Mais y'a des bribes de pickers. Comme chômeur tout smicard, le rap rapporte.
Respire.
Tu m'as jacté, j'étais pas né. Check, tu rappais, j'étais pas né. Respect, mais arrête de me faner. T'as fait ça, m'excitait pas, mais je fais 3 jours 4 showcase. Carbon et brown sugar, chaque chouka. Tous les panés, madame 3 banettes. Y'a des trams, des palettes, des grands joints, des poucaves, des trépanés, des canettes et des engins. Un jean et 11 jets, frangin. Prépare la manette. Promis, je ressens jamais le stress. J'ai jamais de pression, j'ai jamais de réseau. Je sais pas qui m'appelle là. On fait rien exprès. Spliff, espresso, je kick ma dépression, je vis ma best life. Promis, je ressens jamais le stress. J'ai jamais de pression, j'ai jamais de réseau, je sais pas qui m'appelle là. On fait rien exprès. Spliff, espresso, je kick ma dépression, je vis ma best life. Sans un des streets, je rappe mais j'aime pas parler. C'est surcoté comme fera parler. Mais un de l'industrie, des ouvres, moi et pas par mail. Je pars mais je mets le micro fort, ok je me ramène. Sur les pauvres femmes d'une métropole droguée à Carmel. Forcément ma mère galère sur le verlan. Cassette funk farite, crétin plein de shit. Mais le schéma ça je le gère, non. Ça y est ça me raconte plein de chiffres. Le soir la scène au stade de Gerland. Saïd aura son coin chiche. Je pars perdant, je tape pas de plan de scène. Je prends la vie par le bourre, on peut pas me poncer. Si t'es au courant, on tend pas de pincette. J'ai trop de pensées coincées dans mes poumons. Pas le temps de pleurer en 3 soirs et 4 concerts. C'est le boulot, je pète 1000 boulons. Si la rue ça le cancer, je peux pas faire de l'art sans point de chute. Sauf si je me perds dans le ravin. Nique un cerf-volant, je veux un cerf dans un cerf-dollar. Cher un ferzin, mais j'ai un père bien. Un frère fier dans la l'âme et un terre dans la roue. Mais je ressens jamais le stress, j'ai jamais de pression, j'ai jamais de réseau, je sais pas qui m'appelle là. On fait rien exprès. Spliff, espresso, je kiffe ma dépression, je vis ma best life. Promis, je ressens jamais le stress, j'ai jamais de pression, j'ai jamais de réseau, je sais pas qui m'appelle là. On fait rien exprès. Spliff, espresso, je kiffe ma dépression, je vis ma best life.
Alors, est-ce qu'on peut dire ce qu'on vient d'écouter ou pas là ?
Et oui, on a écouté Okis et Grand Bazar. Grand Bazar, c'est un collectif de DJ. Ils ont sorti un super EP qui s'appelle Grand Bazar lui-même, 02. Et le morceau s'appelle Espresso Spliff.
Super. Et ben maintenant, après ce super morceau, on va...
on vous encourage à vous droguer, à boire de la caféine. Enfin, je...
Eh ben, je vous parlais de la fin du nucléaire, à tel point qu'on a même oublié de le mettre dans le fil, tellement que ça va être la fin du nucléaire. Du coup, pourquoi je vous parle de ça ? Alors, puisque il faut savoir que le World Nuclear Industry Status Report fait le point sur la santé de l'industrie du nucléaire toutes les années. Et celui de 2024 est sans appel. Le monde s'oriente vers un affaiblissement de la production d'électricité d'origine nucléaire au profit des énergies renouvelables. Je cite, un énorme fossé se creuse entre la perception que l'opinion publique a du nucléaire et l'activité réelle. En Europe, par exemple, depuis 2018, c'est le calme plat dans ce secteur. Alors, en France, me direz-vous, eh bien, elle n'échappe pas tellement à cette règle. Du coup, pas de quoi fanfaronner avec notre EPR qui a mis quand même 17 ans à voir le jour et dont il va falloir changer d'ailleurs le couvercle défectueux dans quelques mois. En France, donc par rapport au constat de cet encéphalogramme complètement plat sur la construction des centrales, une petite exception avec les annonces farfelues de Macron avec les EPR 2 qui, pour l'instant, n'en reste pas moins qu'un fantasme nucléocrate. La réalité du nucléaire français, c'est avant tout un parc vieillissant dont les performances sont les plus faibles des dernières décennies, avec des problèmes de main-d'œuvre et de compétences, des besoins d'investissement inédits dans une situation d'endettement lourd et des déboires incessants sur son unique chantier de construction à Flamanville. Et signe révélateur, la durée cumulée des arrêts dits fortuits, c'est-à-dire non prévus, les fameux arrêts automatiques, eh ben, ils ont augmenté de 43% juste en 2024, passant de 278 à 399 jours. Énorme décalage aussi entre l'emballement autour des SMR, vous savez, ces petits réacteurs modulaires dont on a entendu beaucoup parler, tout le monde s'imagine un petit truc. Et donc, ben voilà, c'est un énorme décalage entre cet imaginaire des SMR et la réalité industrielle. L'industrie nucléaire et nombre de gouvernements multiplient leurs investissements dans les SMR, tant en termes financiers que politiques, mais à ce jour, la réalité de terrain ne reflète nullement ces efforts. Les projets de SMR continuent à être différés ou annulés. Les coûts des projets du nucléaire en général et des SMR en particulier augmentent. Les quelques estimations du coût des SMR disponibles montrent à quel point ils sont chers, en particulier rapportés à leur capacité de production électrique. En France, plusieurs start-up ont présenté des dossiers pour ces petits réacteurs, mais grosse douche froide en novembre 2024 par le haut commissaire de l'énergie atomique, les calendriers sont irréalistes et leur mise en œuvre va demander énormément de temps et même plusieurs décennies. Et oui, ça a fanfaronné à tout va. Nombreuses d'entre elles, de ces petites start-up, n'ont pas arrêté de bombarder les médias de communiqués annonçant la mise en chantier imminente, vantant une technologie complètement maîtrisée et mûre. C'était assez hallucinant de voir ces communications. Et ça s'appelait plutôt un pot de miel pour les banquiers, parce que tout ça reste une vaste opération financière. Là-dedans, seule l'Asie et Chine en tête, a réellement construit des réacteurs. En 20 ans, la Chine a construit 49 réacteurs. Donc ça reste quand même le deuxième producteur d'électricité nucléaire derrière les États-Unis. Mais dans le reste du monde, le bilan nucléaire est négatif, à savoir qu'il y a beaucoup plus de fermetures de centrales que d'ouvertures. Donc voilà, c'est le déclin du nucléaire.
La fin du nucléaire. C'est vrai, on la prédisait au Cagnafo du vendredi, depuis une bonne dizaine d'années, on avait encore voilà. Un tour d'avance. Voilà.
Et oui, et les bonnes nouvelles, on les trouve aussi dans le monde animal qui arrive à résister à toutes les offensives capitalistes mondiales. Bravo à lui, bravo à eux, bravo aux animaux. Petit tour d'horizon des animaux, on avait envie de vous parler pour commencer du lynx ibérique qu'on appelle aussi le lynx
d'Espagne.
D'Espagne. qui, grâce à une action de conservation, voit sa population augmenter. Il est surtout sorti de la liste de l'UICN, qui liste un peu tous les animaux et un peu leur degré d'extinction. Il est donc sorti de la liste rouge des espèces menacées d'extinction, poursuivant du coup son rétablissement spectaculaire après une quasi-extinction hein, grâce à des efforts soutenus de conservation. Donc l'état de conservation du lynx ibérique, c'est lynx pardinus, s'est amélioré, passant d'un très grand danger à vulnérable, la population augmentant de façon exponentielle. Il faut savoir qu'ils sont partis de 62 individus en 2001 et donc ils sont 648 en 2022. Aujourd'hui, la population totale, y compris le lynx jeune comme le lynx plus âgé, est estimée à plus de 2000. Donc c'est vraiment énorme quoi. En 25 ans, il est passé de 62 individus à plus de 2000 individus. Les efforts de conservation de ces espèces se sont concentrés sur l'augmentation, le fait qu'ils aient plus accès à des proies, notamment aux lapins européens. Essayer de protéger, de restaurer leur habitat, du coup de remettre les plantes, les arbres et les arbustes qui leur sont favorables, et évidemment de réduire l'activité humaine à proximité. Leur augmentation, ça permet aussi plus de diversité génétique et du coup ça permet normalement à l'espèce de perdurer plus favorablement. Il faut bien savoir que quand même le lynx ibérique reste menacé principalement en raison des fluctuations potentielles de la population européenne de lapins.
Moins de lapins, moins de
lynx, très clairement. Il reste surtout menacé aussi en cas d'apparition de nouvelles épidémies de virus, parce qu'il faut savoir que le lynx ibérique est sensible aux maladies des chats domestiques. Le braconnage et les tueries de la route restent des menaces, en particulier lorsque les routes à fort trafic traversent l'habitat du lynx. Bon courage à toi, le lynx, et bonne progression. Et je continue. J'aurais dû vous donner les papiers, je me suis trompée. En vous parlant, petit quiz, est-ce que vous savez comment est-ce qu'on appelle un bébé tortue?
Un tortillon?
Presque. Un tortillon. C'est le nom du bébé tortue de mer, spécifiquement. Et sachez du coup qu'une quinzaine de tortillons ont ainsi pris la direction de l'eau jeudi 19 septembre en partance de Saint-Cyprien en France. Sans doute, quelques autres les ont suivis plus tard. Le tout sous les yeux et la surveillance des spécialistes et des bénévoles qui attendaient cela depuis des semaines. Ça s'est passé le jeudi 19 septembre 2024. Et c'est une première dans ce département des Pyrénées-Orientales. Donc depuis le nid avait été protégé dès qu'on avait repéré la maman en juillet, avec notamment un grillage posé tout autour pour laisser une chance à ces bébés tortillons de naître et de devenir à l'âge adulte des reptiles pouvant mesurer 1 mètre en moyenne pour une grosse centaine de kilos. Le record apparemment pour ces tortues de mer, ce serait de peser 500 kilos. C'est donc la tortue Kakuan qui a fait naître ces 15 petits tortillons. Bienvenue à eux et bon courage.
Tortillez-vous bien.
Et enfin, qu'est-ce qu'on en apprend du vocabulaire? On avait envie de vous parler de ces femelles requins en voie de disparition qui ont fait des bébés toutes seules. Et du coup, au-delà de la chanson, quand on se reproduit seul, ça s'appelle la parthénogenèse. C'est un phénomène rarissime et qui donc est affublé de ce nom étrange, la parthénogenèse, ainsi appelée naissance vierge. Ce processus consiste à se reproduire sans fécondation. Autrement dit, les femelles n'ont pas besoin des mecs pour procréer. Il y avait déjà un cas similaire qui avait été observé en 2018 chez une crocodile au Costa Rica. Et des chercheurs ont donc découvert une nouvelle occurrence de cette parthénogenèse dans une étude qui a été publiée donc le 26 juillet dernier dans la revue scientifique Scientific Reports. Ils font ainsi état du premier cas documenté de naissance virginale chez le requin lévrier commun, autrement dit Mustelus mustelus, de son nom scientifique. Issu donc de plusieurs instituts spécialisés du Piémont, de la Ligurie et du Val d'Aoste, les scientifiques ont observé de près deux femelles de 18 ans appartenant à cette espèce en voie de disparition. Détenues en captivité depuis 2010 dans un aquarium géant en Sardaigne, ça c'est la pas bonne nouvelle, elles ont donné naissance à trois bébés entre 2020 et 2023, et ce malgré l'absence de mâles. Peut-être ce qu'il faut souligner, c'est du coup la capacité d'adaptation de ces animaux pour survivre. Nos spermes, nos problèmes visiblement pour ces femelles requins, et tout pareil, bon courage à elles, on leur souhaite maintenant de sortir de captivité.
And now in the Canu Info,
rubrique internationale, international,
rubrique
cronaca internationale.
Alors, dans la chronique internationale, dans les informations internationales de ce soir, on peut pas dire que les bonnes nouvelles se sont multipliées hein, au cours de 2024 à l'international. C'était un peu comme à l'échelle nationale ou sur les autres sujets dont on vous a parlé ce soir. C'était pas toujours génial, génial, mais quand même, c'était assez impossible de passer à côté de la chute de la dictature d'El Assad en Syrie. Après 13 ans de combat, la révolte syrienne menée par l'organisation Ayar Tay al-Sham, je vais le résumer par HTC comme le font la plupart des médias nationaux, ce qui nous évite beaucoup d'erreurs de prononciation. Ancienne branche d'Al-Qaïda en rupture, cette alliance rebelle, qui est donc bien plus complexe que uniquement des anciens Al-Qaïda, bien entendu, eh bien, elle a mené à la chute de Bachar el-Assad en cette fin d'année, officiellement le 8 décembre, c'est ça qui est retenu comme date de chute. Et ça a marqué la fin de 54 ans de dictature de la famille el-Assad, particulièrement sanguinaire cette dictature depuis l'accession au pouvoir de Bachar au début des années 2000, en 2000 même pile, avec quand même des centaines de milliers de morts et de nombreux crimes de guerre, notamment des attaques au gaz et des enfermements et tortures dans des proportions industrielles dans la tristement célèbre prison de Sednaya qui a été libérée elle aussi en décembre. Selon le réseau syrien des droits de l'homme, la guerre depuis 2011, elle a fait environ 580 000 morts, dont 306 000 non-combattants, donc des civils en fait. Et en fait, ce sont les forces d'Assad qui sont majoritairement, a priori, autour de 90% responsables des décès civils. Donc ça a quand même été très très dur. Les médias, comme les réseaux sociaux, ont montré des scènes de liesse le 8 décembre, mais aussi le 31 décembre, avec notamment des dizaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées sur la place Omeyyade. La place Omeyyade, c'est la place centrale de Damas, où les personnes sont venues en famille célébrer le changement d'année et assister à un feu d'artifice. On a pu voir des images qui étaient assez émouvantes, assez belles, de ce 31 décembre. Sur les murs des villes syriennes, les photos des disparus recherchés par leur famille, parce que c'est aussi énormément de disparus, donc des personnes pas officiellement considérées mortes, mais dont on a très peu de traces, d'autant plus qu'il y a un certain nombre d'archives qui ont été, comme très souvent, quand des dictatures se pètent la gueule, détruites, évidemment, par les tyrans juste avant de disparaître. Eh bien, c'est ces affiches de personnes disparues qui sont recherchés un peu partout dans le pays. Elle s'affiche à côté d'autres affiches qui invitent à adopter les bons comportements. Deux exemples notamment rapportés par Mediapart, l'une d'elles qui dit « Prends soin de la propreté de ta ville, la propreté est le premier pas vers la vraie liberté ». Elle est assez mignonne. Et une autre qui dit, qui est rédigée de la sorte « À partir d'aujourd'hui, ce pays est à nous tous et toutes et nous voulons le construire de nos propres mains. Pour cela, ne brûle pas les feux rouges, ne donne pas de bakchiche et n'en exige pas. Ne mets pas le désordre dans ton pays, soit le changement que tu désires. » C'est sympathique. Autre changement perceptible à Damas, c'est pas des moindres, on ne voit plus un policier en ville. Alors les policiers, ils ont un peu soudainement disparu. Il y en a qui ont fui, il y en a qui ont tout intérêt à ne pas montrer qu'ils ont été policiers par le passé. Et ils ont été partiellement remplacés pour ce qui est de la sécurité par des hommes com de HTC. Et désormais, bon, il y a quasiment plus de flics, il y a quand même beaucoup moins d'hommes d'HTC qu'il y avait de policiers précédemment. C'était quand même une présence policière permanente, la dictature Assad. On peut désormais prendre des photos dans la rue, on peut parler en public de sujets politiques. Et puis on voit aussi des brigades de jeunes gens, donc des filles et des garçons réunis, qui sont portés volontaires pour faire la circulation, qui sont aussi portés volontaires pour nettoyer les rues ou proposer leurs services à des personnes âgées. En résumé, en Syrie, les libertés publiques sont de retour, mais aussi, d'après les témoignages, une certaine joie et des échanges entre citadins et citadines qui avaient été un petit peu tassés, notamment par la répression permanente. Après une décennie de violence et 50 dictatures, ça doit être quand même un sacré bol d'air de vivre tout ça, malgré le fait que ça marque aussi la fin des espoirs de trouver des proches disparus, et c'est aussi une grande période de deuil de toutes ces personnes qui ont été assassinées par le régime Assad. Alors malgré tout, même si c'est l'émission des bonnes nouvelles, il y a quand même des inquiétudes multiples autour de la situation. Si la chute d'une dictature ne peut être autre chose qu'une bonne nouvelle, il est difficile d'imaginer pire que la sanguinaire dynastie d'Assad. Il y a deux inquiétudes. Il y en a une qui vient notamment d'un certain nombre d'opposants politiques à l'intérieur de la Syrie, qui est le devenir politique de la Syrie et les velléités potentiellement dictatoriales de HTC, en fait, donc notamment son chef, Abu Ahmad al-Jouani. Il a multiplié les déclarations d'ouverture aux autres courants politiques. Il a l'air d'être plutôt dans une démarche de démocratisation, mais ça inquiète quand même ceux qui sont pas aussi conservateurs sur le plan politique ou le plan religieux. À Idlib, donc Idlib, c'est le fief de HTC qui sert aussi de démonstrateur politique. La situation économique est bien meilleure que dans le reste de la Syrie et les opposants politiques semblent avoir été moins réprimés qu'à Damas, par exemple. C'est très clairement beaucoup mieux que Assad. Mais y a quand même une situation démocratique qui n'est pas du tout présente. Il y a une présence partout de HTC et quand même des formes de répression assez violentes. Donc c'est une première inquiétude qui émane notamment des opposants politiques en Syrie. Alors pour l'instant, il y a plutôt une volonté de composition, donc ça va plutôt dans un truc qui semble ouvert, mais c'est assez difficile à suivre aussi avec nos yeux d'occidentaux, pas forcément très bien informés de la situation sur le terrain. Et puis on peut le dire, en France par exemple, on a une couverture politique qui a été une fois de plus lamentable, notamment, allez, on va citer Mélenchon, qui quand même s'est inquiété immédiatement de la chute de Damas parce que ça allait globalement mettre en danger l'Occident, parce que ce que préfèrent quand même nos politiciens, alors je cite Mélenchon, on pourrait regarder à droite, ils sont tous inquiétés du fait que globalement une bonne dictature, c'est toujours bien rassurant en fait pour les pays colonisateurs, parce qu'on sait jamais trop ce qui va se passer quand ça devient instable, puisqu'on peut pas faire confiance à ces gens là donc bref, il y a eu quand même beaucoup de retours dans l'Occident. Mais il y a une seconde inquiétude quand même qui est aussi importante sur le devenir politique de ce qui pourrait se passer dans le nord de la Syrie, où notamment les forces démocratiques syriennes, kurdes en l'occurrence, sont aujourd'hui à la fois menacées par la Turquie, finalement n'a plus Damas en face, et par les revendications territoriales et religieuses d'une partie de la population syrienne qui leur sont opposées. Et globalement, aujourd'hui, les camarades kurdes, ils sont assez inquiets, puisque les nouveaux gouvernements temporaires actuellement dans l'instabilité ne leur offrent aucune garantie. Donc il y a une inquiétude qui vient notamment de la partie kurde, toujours un peu entre le marteau et l'enclume, un peu quel que soit l'endroit où il se situe. Donc à suivre donc, mais on retiendra quand même qu'une dictature de 54 ans qui chute, c'est pas tous les jours et c'est quand même sacrément plaisant.
Et alors, plaisant, mais bon, moins important, mais malgré tout, on prendra toutes les bonnes nouvelles, et celles-ci nous viennent des États-Unis, ce qui n'est pas finalement si mal, vu la salve de nouvelles de merde qui viennent de là-bas aussi cette année. Parce qu'aux États-Unis, il y a eu plusieurs mouvements de grève assez importants dans des grosses industries qui ont mené quand même à des victoires des salariés. Et du coup, on peut vous parler de Boeing, par exemple, qui après 7 semaines de grève, on est quand même sur des employés qui ont gagné une augmentation de salaire de 38% sur 4 ans, ce qui est quand même vraiment pas rien. Et avec une petite prime, alors ils appellent ça une prime de ratification. Donc en gros, pour qu'ils arrêtent la grève, en plus de ça, on leur a filé $12,000 à chacun, chacune. Par ailleurs, il y a eu aussi plusieurs grèves qui ont été portées par le syndicat UAW, qui lui a plutôt fait plier du coup les géants américains des constructeurs de voitures, donc General Motors, Stellantis et Ford. C'est la première fois qu'ils arrivent en fait à se mobiliser au sein de tous les constructeurs et pas à faire des grèves constructeur par constructeur. Et du coup, ça a été des victoires assez impressionnantes avec, par exemple, une hausse de 25% du salaire de base. Sachant que le salaire de départ pourrait progresser du coup de 67% sur la période. Mais surtout, il y avait un système par exemple qui permettait d'embaucher des personnes à niveau équivalent mais en les payant un peu moins. Enfin un peu moins, c'est surtout beaucoup moins puisque ça permettait de baisser les salaires jusqu'à plus de deux tiers. Et du coup, c'est des gens qui vont voir une augmentation de 67% de leur salaire. Et par ailleurs, ils ont, au-delà du calcul des salaires, réussit à influer en fait sur la politique et sur la gestion de l'entreprise. Et c'est ainsi que, par exemple, à Stellantis, le syndicat a réussi à faire cracher la réouverture d'une usine qui avait été fermée au début de l'année et au réemploi de tous les salariés, donc les 1200 salariés qui bossaient là-bas, qui vont être réembauchés. Et par ailleurs, ils se sont engagés à maintenir des usines ouvertes. Alors voilà, c'est quand même comme quoi c'est à la fois des petites victoires, mais aussi quand même des grosses hausses de salaire qui ont pu être grattées. Après, finalement, des grèves, certes, un petit peu longues, mais pas non plus infinies, hein, c'est 6 ou 7 semaines, et qui ont montré que juste avec ça, finalement, les plus gros constructeurs, soit d'avions, soit d'automobiles, mais ils sont quand même des très grandes puissances financières aux États-Unis et pas que, ont plié et ont fini quand même par lâcher des belles miettes aux salariés qui sont mobilisés et on les félicite. Les salariés, évidemment, pas les comptes de chez Boeing et Stellantis.
Voilà, et autre bonne nouvelle très rapide, le Zimbabwe a officiellement aboli la peine de mort mardi 31 décembre après que le président zimbabwéen, donc Emmerson Mnangagwa, a promulgué une loi qui a commué en peine d'emprisonnement les condamnations d'une soixantaine de personnes condamnées à mort. C'était les derniers condamnés à mort du Zimbabwe. La loi sur l'abolition de la peine de mort, publiée mardi au journal officiel, veut que les tribunaux ne peuvent plus prononcer de peine capitale pour quelque infraction que ce soit, et toute condamnation à mort existante est commuée en peine d'emprisonnement. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, la peine de mort qui disparaît dans un dernier pays. On note toutefois qu'une disposition prévoit que cette abolition peut être levée en cas d'état d'urgence. Donc c'est un petit peu un résumé de ce qu'on vous raconte ce soir, c'est quand on cherche des bonnes nouvelles, il y a toujours une petite dose de merde qui s'y cache. Donc bon, voilà. Mais bon, c'est quand même une bonne nouvelle au global.
Et on finit par une bonne nouvelle science-médecine un peu autour de VIH puisque un médicament préventif efficace a priori avec 2 injections par an seulement suscite l'enthousiasme et on le comprend. Alors, un médicament antirétroviral innovant, c'est le lenacapavir du laboratoire Gilead, hein, c'est quand même un laboratoire privé, a permis d'éviter toute infection chez des femmes de 16 à 25 ans en Afrique du Sud et en Ouganda. C'est donc un essai très prometteur présenté cette année à la conférence internationale sur le sida à Munich. Alors, chez des jeunes femmes africaines, une population très exposée au VIH, pouvait-on prévenir le risque d'infection en administrant, en seulement 2 injections par an, un médicament antirétroviral innovant, le lenacapavir du laboratoire Gilead? La réponse est oui. Alors, pourquoi un tel enthousiasme? Parce que, après tout, il existe déjà, pour les personnes à risque d'infection, un traitement médicamenteux préventif que peut-être vous connaissez. On souvent dit la PrEP. La PrEP, ça veut dire prophylaxie pré-exposition, qui est donc disponible depuis 2012 aux États-Unis et depuis 2015 en France. Ce traitement, le plus souvent, impose la prise quotidienne d'un comprimé associant donc 2 antirétroviraux, qui sont l'entricitabine et le tenofovir. Et ça, c'était initialement commercialisé sous la marque Truvada qui appartient aussi à Gilead, mais qui est aujourd'hui disponible en générique. Donc ça existe déjà un traitement préventif, ça c'est pas ce qui est innovant. Mais ce qui joue, c'est que, voilà, et la PrEP quand elle est bien prise, le risque de contamination est infime, ce traitement préventif est vraiment recommandé par l'OMS, il fonctionne. Par contre, ce que ça fait, c'est qu'il faut vraiment le prendre tous les jours. Et en médecine, il y a un terme qui existe, on dit l'observance. L'observance, ça veut dire est-ce qu'on arrive bien à respecter les règles préconisées pour le traitement. Et on se rend compte que tout le monde n'arrive pas à suivre cette observance de prendre vraiment un comprimé de manière quotidienne, ce qui est quand même très très exigeant, et puis qu'il faut faire tout le temps. Et du coup, c'est là où du coup il y a un grand enthousiasme autour de ce médicament préventif efficace, puisque deux injections par an, c'est beaucoup plus facilement gérable si on prend le rythme de le faire, un peu comme quand on se fait vacciner sur certaines choses une fois par an. Et du coup, ça permettrait normalement du coup de prémunir la diffusion du VIH assez fortement. Et du coup, le but derrière tout ça, ce serait de ralentir l'épidémie de VIH, voire pourquoi pas, dans les rêves les plus fous, l'anéantir. Ça veut dire que ce virus arrête de se transmettre. Et donc effectivement, c'est un traitement qui est préventif, qui est efficace et qui suscite l'enthousiasme. Donc on espère, toujours pareil, que ce médicament pourra avoir aussi des génériques qui pourraient être diffusés à grande échelle pour que effectivement l'épidémie, croisons les doigts, puisse être endiguée.
Absolument, et comme mes camarades ne maîtrisent absolument rien, je vous balance tout de suite un petit son qui fait écho à une mauvaise nouvelle par contre de la semaine. Ça marche pas, j'appuie sur play, je suis perdu, ah là là. Ah.
Dans mon calice, ouais. Sois pas trop pressé, je sonne dans les abysses. Je fasse un max, j'ai pas la mort du risque. Et je fais ce qui les baille pas l'emploi. Je sonne toujours quand il faut pas, y'a fané, cané, pas là. Et on a fait le taf sans compta. Si on a besoin, on pétaille, y'a. J'suis plus là, j'ai les chaussures qui pleurent. Me suis pas levé, j'ai pas vu là. Je mets le matin, je mets le patron, j'l'ai montant, l'heure. Ne bougerai pas le cul, j'ai trop à faire. Tanger le matin, tancher le, oh là là là. Je ferai ce qu'il me plaira. La cave c'est mon sugar daddy, oh là là là. J'suis pas prêt de me sortir les doigts. Ça fait 6 mois, j'mange que du riz. C'est pas dans le sofa, nique le salarié. Lazy comme panda, futé comme Dora. C'est pas dans le sofa, je graille mon tabac. Attends 5 du mois pour toucher mon RSA. C'est pas dans le sofa, nique le salarié. Lazy comme panda, futé comme Dora. C'est pas dans le sofa, je graille mon tabac. Attends 5 du mois pour toucher mon RSA. J'ai le drip d'un opossum, wow. Un hier qui pue l'opium, maman. Connais pas le mot curriculum, nana. J'ai pas le temps, mais c'est tout comme. J'écoute pas les gna gna gna. Et moi j'suis saoulé, maman qui ferait le match. Pas le temps pour le cash, on est calé. Je suis pas des tâches, fais bail à la rage. J'suis saoulé, que t'es de belles tâches. Souris sur les flashs, j'ai un carré. Tous les autres vite match, demain on se fâche. Oh là là là, j'ferai ce qu'il me plaira. J'veux dormir jusqu'à midi. Oh là là là, j'ai affaire, me réveille pas. Je slip sur mes ennemis. C'est pas dans le sofa, nique le salarié. Lazy comme panda, futé comme Dora. C'est pas dans le sofa, je graille mon tabac. Attends 5 du mois pour toucher mon RSA. C'est pas dans le sofa, nique le salarié. Lazy comme panda, futé comme Dora. C'est pas dans le sofa, je graille mon tabac. Attends 5 du mois pour toucher mon RSA.
Mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Un agenda qui reprend tout doucement dans cette bonne ville de Lyon pour cette nouvelle année qui commence. Il y a des activités récurrentes qui se produisent, notamment la chorale militante tous les lundis, l'autodéfense avec l'amicale du combat libre, ça c'est tous les mardis, la boxe avec l'amicale du combat libre, si vous préférez, ça c'est tous les jeudis, les permanences d'accueil du syndicat CNT Interco, ça c'est tous les samedis. Et donc ces activités, elles reprennent car 2025 manifestement n'est pas la fin du monde. En attendant, on a aussi une rencontre rencontre qui se déroule samedi prochain, le 11 janvier, à la Griffe. Rencontre intitulée « Quelle écologie pour renverser les systèmes de domination ?» Il s'agit d'une rencontre avec la revue Silence et les rédactrices d'un livre qui s'appelle « Danse avec les luttes », qui est un livre collectif qui sort en cette début d'année ou qui est sorti en fin d'année 2024.
Et comme il n'y a pas grand chose encore qui apprend, si ce n'est les activités récurrentes, vous serez en forme olympique le samedi 11 janvier et vous pourrez vous rendre directement au bar des Capucins pour profiter du 100e concert d'un groupe connu sur toute la région, voire la France, voire le monde. C'est Max Lampin et venez boire des bières aux Capucins en écoutant de la musique pour le 100e de Max Lampin.
C'est culte.
Et puis même si on n'a pas encore les dates exactes, on peut se rappeler que depuis quelques mois, tous les 8 du mois, c'est les féministes contre l'armement qui appellent à dénoncer le génocide qui se passe en Palestine. À Paris, le rendez-vous se fait devant le ministère des Armées, mais un peu partout en France, des manifestations s'organisent ce jour-là. Comme souvent à Lyon, les manifestations sont organisées le samedi, toujours pour dénoncer le génocide en Palestine. Puis voilà l'occasion de vous faire un peu nos petits vœux pour 2025, de vous dire qu'en cette année 2025, en tout cas, on pourra continuer à célébrer les luttes féministes, puisque ce sera les 50 ans de la loi Veil en janvier, qu'en juin, on pourra se souvenir de l'occupation par les travailleuses du sexe de l'église de Saint-Nizier en 1975, qu'on pourra aussi voir un peu qu'est-ce qui se passe du côté du politique, puisqu'on va avoir les délibérations du procès de Marine Le Pen, quand même, sur les détournements de fond. On va aussi savoir, nouvelle dissolution, oui ou non. En tout cas, peut-être des surprises pour l'année 2025. On vous souhaite en tout cas de se retrouver dans les luttes.
Et on sera évidemment là pour commenter, analyser avec brio tout ce qui va se passer. Et modestie. Du côté de Radio Cani, écoutez, ça tourne toujours. Il y a quand même une semi-bonne nouvelle, c'est qu'à ce stade, on ne sait toujours pas vraiment ce que sera le budget de l'année prochaine. Donc on n'a pas encore perdu le FSER, on n'a pas encore récupéré, on ne sait pas. On verra bien. En tout cas, nous, on ne compte pas abandonner l'antenne, évidemment. Et on se retrouvera notamment, si vous voulez, nous rencontrer le 1er mai. C'est en jeudi, on a annoncé tout à l'heure, à l'issue de la manifestation. Et évidemment, traditionnellement, nous serons normalement place Satonef, faut qu'on pense à réserver la place. tout de suite, une grande question qui nous préoccupera toujours peut-être en cette année 2025, à moins qu'on en change. Jingle.
Je m'appelle Marius, j'ai 14 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAP
Cagnos du vendredi.
Wesh wesh Marius, on a eu plein d'appels, j'attends que mes camarades répondent.
Alors moi, c'est pas un appel, c'est sorti du studio, il faut dire la vérité, mais une des choses que ça veut dire à CAB, ça veut dire les animateuristes de Canu vous aiment beaucoup.
Oh, oui. C'est hyper tendre.
Mais je crois quand même qu'on a eu un appel qui disait « l'activité capitaliste s'arrête bientôt ». Et ça, je pense que c'est grâce à toutes ces bonnes nouvelles qu'on
oui, tout à fait.
Ce soir.
Voilà.
Et il y a eu un autre appel, mais je ne sais pas si la personne a bien compris la question. Ça voulait dire « Les animaux chantent l'arrivée des bébés
». Chelou. L'émission nativiste du Canu Info des bonnes nouvelles.
On est le ACAP que vous préférez.
Et des ACAP préférés, ça se termine. C'était 19h58.
Et ben voilà, de toute façon nous on est encore là, donc on vous retrouve la semaine prochaine au plus tard
pour des mauvaises nouvelles.
Sachez que voilà, c'était une émission spéciale, qu'à partir de la semaine prochaine on vous parlera du RSA, du gouvernement, des questions de logement, et d'ici là portez-vous bien.
Absolument, et ils vous aiment aussi, vos animateurs préférés de l'émission de punk rap de Canoës Pollution arrive tout de suite.